Mais au roi, le mannequin. Il y avait déjà 3 grands mois qu'un soir d'octobre, au coucher du soleil, les escadrons du régiment étaient entrés dans la bonne ville de Saint-Martéjoux, piaffant tumultueusement sur les pavés des rues étroites, poudrés par la poussière grise des étapes interminables, et secouant toutes les vitres de stridentes fanfares pareilles à une chanson de bienvenue. Tous les souvenirs mélancoliques qu'on emporte malgré soi d'une ancienne garnison, l'amertume restée aux lèvres des baisers d'adieu dont on ne peut se désenlacer, les promesses lentes murmurées dans un dernier tour de valse à quelques blondes enfants, la danseuse préférée de tout l'hiver, l'ennui de ne plus revoir les paysages familiers, le cadre auquel on s'est habitué pendant de longs jours, le logis, les meubles qui ont entendu tant de douces choses, qui ont vécu discrètement de la même vie que nous, tout cela peu à peu se mourait, s'évanouissait dans la curiosité du nouveau, dans l'émoi des aventures inquiètement courues, dans la jouissance attachante de refaire son trou, de s'installer au milieu de ses bibelots, de ses livres, de ce qu'on a aimé et qu'on aime encore. On eût dit que le régiment tenait garnison à Saint-Martéjoux depuis des siècles. Les officiers avaient pris, avec une gaillarde philosophie, la succession des camarades partis. Les jolies filles étaient revenues frapper aux portes qu'elles connaissaient de vieille date. Puis les romans qui s'ébauchent, on ne sait comment, en croquant un gâteau chez le pâtissier, en bavardant 5 minutes dans une sauterie, en ramassant un gant à la messe. Ces romans, qui commencent par une bêtise et qui nous agenouillent le lendemain, sans volonté, sans force, les mains jointes, le cœur blessé, les lèvres implorantes aux pieds de la première venue. L'amour fleurissait donc, quoique transplanté en terre nouvelle, et comme on le chante dans les ronds de Tourangelle, chacun avait sa chacune, au 41e dragon. Oui, chacun avait sa chacune, hormis pourtant le capitaine l'enfumé du 2e escadron. Cela ne surprenait personne, d'ailleurs. Le capitaine était laid, d'une laideur drôle de cabotin qui joue les locrices, difficile comme parrain, aimant à choisir ses morceaux et les meilleurs, plus timide qu'un écolier lorsqu'il essayait une déclamation tendre, enfin myope, invraisemblablement myope. Il saluait les réverbères, croyant saluer le colonel. Il avait suivi une douairière, persuadé qu'il suivait une gamine effrontée. Mais, aussi amoureux que myope, il ne désespérait de ne pas avoir encore ramassé un clou pour accrocher son cœur. Il errait dans les faubourgs comme un pauvre qui mendie n'importe quoi. Il collait sa face rougeaude aux vitrines des boutiques. Il attendait la procession de trottins qui s'éparpille, ainsi qu'une volée bruyante de moineaux hors des ateliers à l'heure vague où le gaz s'allume de rue en rue. Et les grisettes lui riaient au nez, lui souhaitaient en courant d'ironiques bonsoirs et le poursuivaient de colis ben joyeux. L'enfumé s'entêtait et, honteux de sa mauvaise fortune, il racontait à la pension des histoires galantes à dormir debout, où il se taillait des rôles de jeune premier, forçant les serrures les mieux fermées, et changeant de maîtresse comme feu Don Juan. On ne l'écoutait pas, et les moqueries allaient leur train. Or, certains jours que le capitaine longeait le trottoir de la rue Cardinal, s'arrêtant à chaque magasin, revenant sur ses pas, examinant les corridors, lorgnant les fenêtres closes des maisons, il aperçut dans l'entrebâillement d'un rideau à demi tiré comme une silhouette élégante de femme qui se cambrait en une pose étudiée. Coiffée d'un chapeau directoire aux larges bords, qui teintait d'ombre la moitié de son visage, elle semblait regarder curieusement dans la rue, et tous ses traits se figeaient dans une moue bête dont rien ne troublait la sereine fadeur. Au-dessous des fenêtres, en grosses lettres dorées, s'allongeait l'enseigne suivante. « Mesdemoiselles, trinquebales, sœurs, modistes. » L'enfumée redressa son lorgnon, contempla longuement la fenêtre des modistes, risqua bientôt un sourire allumé de gourmande convoitise. La belle ne disparut pas. Elle continuait à regarder la rue et sa bouche gardait son immuable pli. « Mais parbleu !» se dit triomphalement le capitaine. « Il n'y a pas cette fois la moindre erreur. Voici l'infante rêvée. Mais c'est bien sur moi que se fixent ces adorables regards. Elle est idéale, je suis aimé. Oh, ce doit être une grande dame. Ne la compromettons pas. » Il ne souffla mot de son aventure aux camarades. Il était déjà jaloux. On eût dit d'un avare qui espère un héritage et veille déjà sur la cassette vide qui renfermera les doublons futurs. Il retourna le lendemain à la même place, anxieux, le cœur battant sous sa tunique serrée. L'inconnu attendait, comme la veille, à la fenêtre, dans la même pose et la même toilette. Alors l'enfumé s'attendrit. Il salua jusqu'à terre. Il pencha la tête, il entr'ouvrit la bouche, il posa la main sur son cœur. L'inconnu ne remuait pas. « Mais décidément, je ne m'étais pas trompé, » pensa-t-il. « C'est une grande dame qui a peur de se compromettre, j'ai peut-être été trop loin. » Et s'étant incliné comme devant une reine, il passa son chemin. Maintenant, il ne s'attardait plus après le déjeuner au parti de Bézigue en 5 000 liées. Il paraissait tourmenté, distrait, malade. Il négligeait le service. Il ne flânait plus dans les faubourgs. Il ne comptait plus la moindre blague. « Mais on nous a changé le perle en fumée !» disaient les sous-lieutenants intrigués de cette métamorphose soudaine. Et flairant quelques cocasses drôleries, ils surveillèrent le capitaine. On le suivit, on l'épia, et l'on découvrit bientôt que le pauvre myope avait entrepris patiemment la conquête d'un mannequin, de la bonne femme en cire sur laquelle les sœurs trinquebales essayaient leurs chapeaux. Les petites modistes connaissaient les dragons. On les mit dans la confidence, et un beau matin, l'enfumé, grisé de bonheur, vit la fenêtre s'ouvrir furtivement et une main féminine lui jeter un billet qui embaumait la violette. Il lut et relut les pattes de mouche de son inconnue. « Venez ce soir, » écrivait-elle à 10 heures, « quand les réverbères seront éteints. Frappez 4 coups doucement, on vous ouvrira. » Soyez muet comme votre ombre, une femme qui vous adore et qui se perd pour l'amour de vous. La signature était illisible. L'enfumé ne parut pas à la pension. Il n'avait pas faim. Il se sentait des ailes. Il rayonnait. Il eût pourfendu le monde entier pour charmer sa bien-aimée. Il récitait les mots du billet comme une prière magique. Tout le romanesque de son aventure le détraquait, l'idiotisait. Il n'avait pas le moindre soupçon que cela fût un méchant tour joué par des camarades qui s'ennuyaient. Il croyait aveuglément à son bonheur. Et quand les réverbères ne piquèrent plus l'obscurité de leur lueur jaune, il monta en frissonnant l'escalier des modistes. Il gracta 4 coups doucement à la porte close. La porte s'ouvrit et, stupéfait, désolé, furieux, il se trouva alors au milieu d'une chambre déserte, enfin du mannequin qu'éclairaient les chandeliers allumés à droite et à gauche, la figure en cire coiffée d'un chapeau de carnaval, le regardait de ses prunelles mortes et ternes, lui souriait de ses lèvres peintures lurées. En même temps, il entendit des éclats de rire étouffés qui bruissaient derrière une cloison, et comprenant enfin la comédie dont il était le personnage ridicule, honteux comme le renard de la fable, il se sauva par où il était entré sans détourner la tête. Depuis lors, il renonça aux amours défendus, épousa une jeune fille aussi laide que lui. Ils s'aiment et ils ont beaucoup d'enfants. Ainsi soit-il pour ceux qui nous liront.